Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, la radio sans Dieu ni maître ni publicité. Et c'est Jeudi Noir qui commence pour une émission sans Jean Mathias, qui boude, une fois encore. Et ce soir, donc je suis avec donc José en régie, et puis ben moi, Michel. Et je vais vous parler d'un livre de Peter Lamborn Wilson, qui s'intitule Utopie Pirate, Corsaire Mort et Renegados d'Europe, qui a été publié chez L'Éclat et republié récemment, je crois, en poche. Alors, deux, trois mots sur l'auteur, parce que Peter Lamborn Wilson, que j'appellerai Wilson pour aller plus vite, ça ne vous dit peut-être rien, mais si je vous dis Hakim Bey, et je vous parle de zone d'autonomie temporaire, ou de zone autonome temporaire, je pense que certains d'entre vous s'y retrouveront davantage. Donc c'est une espèce de hippie tout droit échappé des années 70 qui a publié tout un tas de livres étranges et qui est sans doute intéressant, qui ont eu une forte influence sur les mouvements anarchistes, et pas que. Voilà, alors ce livre donc est consacré aux pirates, et je pense que ce qui l'intéressait là-dedans, c'est aussi le côté de, encore une fois, une zone autonome temporaire. Le mot, enfin l'expression n'apparaît que la conclusion du livre, mais malgré tout c'est ça. Et donc Wilson, dit aussi Hakim Bey, s'intéresse à un truc, à un point d'histoire assez particulier, c'est à toute la piraterie finalement qui a eu lieu dans le bassin méditerranéen et qui s'organisait autour du Maghreb, autour de l'Afrique du Nord. Alors, à quelle époque c'est ce qui l'intéresse, lui, c'est le moment c'est le moment où elle naît et elle meurt, c'est où elle connaît aussi son apogée, cette piraterie du bassin méditerranéen, c'est entre le 16e et le 18e siècle, et c'est le moment où l'Europe chrétienne et l'Empire ottoman, finalement, ont des rapports qui sont marqués par l'ignorance, l'intolérance et la violence. Bon, vous me direz, ça n'a pas changé. C'est triste, c'est clair. Et à ce moment-là, les croisades, dit Hakim Bey, enfin Wilson, ne sont pas encore vraiment terminées. Les Espagnols viennent à peine de finir d'expulser les musulmans, en 1492 et en 1600, bon, je ne sais plus trop quand, que se termine la Reconquista, 1492 je crois, et donc... Oui, c'est-à-dire qu'ils les ont chassés, il reste des marins, des gens qui ont renié leur religion officiellement, mais qui continuent à pratiquer, mais il y aura encore des émeutes musulmanes jusqu'au début du XVIIe siècle. Et donc, à ce moment-là, et d'autre part, donc les croisades sont pas vraiment encore terminées, parce que il y a l'Espagne qui chasse encore ces derniers musulmans, et puis il y a aussi des djihad qui sont déclarés par l'Empire ottoman contre l'Europe de manière assez régulière, donc de manière officielle ou non, peu importe. Mais alors... Ce qui est intéressant, c'est qu'en dépit de ce conflit interminable, marqué par l'ignorance et de la haine de part et d'autre, on peut constater que des milliers d'Européens, à l'époque, se convertissent à l'islam. La plupart d'entre eux, alors là je vous cite l'ouvrage de Wilson, donc à ce moment-là, vivent et travaillent à Alger, Tunis, Tripoli, ou dans la région de Rabat Salé au Maroc. Et c'est ce qu'on appelle les états de la côte de Barbarie, à ce moment-là. Alors, ces convertis européens à l'islam étaient nommés à l'époque des renegados, donc c'est dans le titre. Moi je dirais renega parce que j'ai pas d'accent espagnol. Et donc c'est des renegats, des apostats, des traîtres. Car aux yeux des Européens, car en plus de trahir notre Seigneur, alors entre guillemets, parce que c'est pas le mien, en plus donc de trahir notre Seigneur, guillemets, ils se joignaient au djihad en devenant des corsaires de barbarie, qui pillaient les navires européens et capturaient aussi des chrétiens pour s'enrichir sur leur dos, soit en les rançonnant, quand ils étaient riches ou quand ils avaient un métier intéressant, soit les transformant en esclaves, parce qu'ils avaient une valeur marchande en tant qu'être humain à vendre, évidemment. Alors, ce que dit Wilson, c'est qu'on ignore encore, finalement, pourquoi tant d'Européens se sont convertis. Ou du moins, les explications qui ont été données des deux côtés de la Méditerranée ne convainquent pas réellement Hakim Bey, enfin Wilson. D'un côté, ils sont présentés comme des espèces de traîtres brillants qui auraient permis aux morts d'acquérir enfin des rudiments de navigation. Parce que, comme le note Hakim Bey de façon très très ironique, chacun sait que les musulmans sont mauvais marins. Donc ça, ce serait la version un peu occidentale du truc, avec laquelle Wilson n'est pas d'accord. Soit du côté parfois tunisien, marocain ou autre, on les présente comme des espèces de chanceux qui ont pu se convertir à l'islam, mais qui n'ont finalement servi que d'auxiliaires à des musulmans, plus anciens et valeureux. Donc dans les deux cas, finalement, les motivations, ce qui pouvait motiver ces renégats, ces apostats, est passé sous silence. Et ce que demande donc Wilson va y chercher propose une autre piste d'enquête. Alors il en propose plusieurs. Et il se demande si à l'époque, à la suite des croisades, l'islam n'aurait pas possédé une nuance positive qui se serait instituée dans la culture européenne et aurait pu influencer les renégats avant même leur fuite dans la barbarie. Ça, c'est une des premières pistes. Et pour ça, alors ici, il le dit clairement, il s'intéresse davantage aux représentations que l'Europe pouvait avoir de l'islam à l'époque qu'à l'islam réel. Mais c'est presque la même chose, puisque les représentations, même fausses, que les gens pouvaient avoir de l'islam, ont pu aussi tout à fait influencer leur comportement. Bon, ce sera pas la première fois qu'une idée stupide, influence les gens. Et donc, par exemple, il semble ainsi que certains lettrés européens, plus ou moins francs-maçons, des rosicruciens, tout un tas de trucs bizarres comme ça, qui n'étaient pas forcément satisfaits par les religions officielles qui avaient cours en Europe, aient pu avoir une vision fantasmée d'un islam secret, ésotérique, qu'on transmettait que sous le manteau, en quelque sorte, qui ont été remplis de sagesse. Ça, c'était une première voie d'accès, mais alors cette voie d'accès, elle est relativement limitée, parce qu'elle ne concerne finalement que les plus lettrés de l'Europe, c'est-à-dire une infime population, finalement. À l'époque en particulier, où les livres étaient choses rares et chères. Alors, il y a aussi un autre élément que mentionne Wilson, c'est l'impression que l'islam était libre de tout clergé autoritaire, et même de tout dogme. Et cette idée avait imprégné une bonne partie de la culture européenne, en particulier de la culture européenne anti-autoritaire et anticléricale qui existait déjà. Bien qu'aujourd'hui, beaucoup de gens voudraient nous faire croire que l'Europe a toujours été totalement chrétienne, jusqu'à l'abominable Révolution française, ou je ne sais autre quel événement cataclysmique. Ça, c'était quelque chose qu'on retrouve un peu plus tard dans la vision que Nietzsche peut développer des musulmans. C'est finalement la compréhension que les libres penseurs athées ont de l'islam et qui les charment. Alors ça peut aussi avoir un lien avec le protestantisme. Alors dommage, bon, notre protestant en chef, Jean-Mathias, n'est pas là. Mais au sens où, justement, le pasteur a beaucoup moins d'autorité que le prêtre. C'est-à-dire chez les protestants, chacun doit lire la Bible pour lui-même, s'en imprégner et avoir un rapport individuel avec Dieu. Alors que chez les catholiques, tout passe par la médiation du prêtre. Donc évidemment, l'idée qu'il n'y avait pas de prêtre, réellement de prêtre dans les pays musulmans, a pu charmer tout un tas de gens qui se disaient « on va enfin se débarrasser des curés ». Bon, évidemment, là encore, ça ne préjuge rien de la situation réelle du pouvoir clérical dans les pays musulmans. Hein. Ça, bon, moi, j'en sais rien. Mais bon, un autre élément que mentionne Wilson, c'est une autre vision fantasmatique de l'Orient qui, d'une certaine manière, transpire encore aujourd'hui dans certains écrits. C'est l'attrait pour un Orient vu comme quelque chose d'extrêmement sensuel, où la sexualité n'est pas réprimée et où les Européens pourront enfin satisfaire tous leurs désirs les plus interdits. Donc ça, c'est bon, ça c'est, je sais pas si on appelle ça de l'orientalisme, mais en tout cas, c'est une vision fantasmée, essentialisée d'un Orient où les femmes seraient des sorcières qui emprisonnent les hommes, évidemment, grâce à leur charme. C'est des explications d'ailleurs qui sont données par certains auteurs de l'époque à ce courant renégat, ce courant apostat. Ils se sont fait avoir par les femmes. Donc évidemment, bon, encore une représentation sexiste aussi. Un dernier point, si on veut comprendre parce que bon, les marins, les pirates, tout ça, c'était pas des lettrés, c'était pas des gens qui pouvaient lire tout un tas de rapports et de choses étranges. Et donc, pour prendre en compte le côté populaire de l'attrait qu'a pu avoir éventuellement l'islam au XVIIe siècle sur les marins prolétaires de l'époque européen, il faut prendre en compte des mouvements prolétariens, protestants, assez extrémistes, comme les Niveleurs ou autres qui opéraient en Angleterre, et qui pouvaient être séduits par certains aspects, là encore plus ou moins réels, de l'islam en matière d'égalitarisme et de rapport aussi à Dieu. C'est-à-dire que, bon, ça c'est des trucs très très compliqués, je rentrerai pas là-dedans, mais certains mouvements protestants européens de l'époque étaient en réalité très très proches d'un athéisme radical. Et ils essayaient de se retrouver dans d'autres religions pour voir s'ils pouvaient pas avoir raison. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui allaient nier que, par exemple, qu'appartenir à une religion en particulier pouvait vous sauver, qu'il suffisait d'être gentil sur terre pour être sauvé. Être sauvé, ça voulait juste dire vivre éternellement. Quant à ceux qui étaient damnés, c'était ceux qui avaient fait du mal, quoi qu'ils croient, et leur punition, c'était simplement de disparaître, le néant. pas d'enfer. Donc ces gens-là, bon, ont pu être aussi tentés par l'islam. Une dernière raison qu'avance Wilson, une raison possible en tout cas pour toutes ces conversions à l'islam de la part donc de marins, d'Européens, qui a priori n'auraient eu aucune raison de se convertir, c'est que l'islam était l'ennemi de la civilisation européenne. Les chrétiennes, à l'époque, il était vu comme ça en tout cas par beaucoup. Or, les marins, alors ça, il reprend des analyses d'un historien américain, Rediker, qui a beaucoup écrit sur les pirates et qui a en particulier émis l'hypothèse que la classe prolétarienne serait née finalement dans les navires où les gens étaient extrêmement maltraités quand ils étaient là-dessus, ils étaient enrôlés de force, affamés, battus, passés aux armes pour un oui ou pour un non. C'est une condition épouvantable d'être marin. Et donc, là je vous cite Wilson, le marin avait toutes les raisons de se considérer comme le personnage le plus vil et le plus déconsidéré de toute l'économie d'Europe. Impuissant et sous-payé, brutalisé et torturé, livré aux scorbutes et aux tempêtes, à peu près réduit en esclavage par de riches marchands et armateurs, ou des princes aprogains. Il et Rediker, se fondant sur les travaux antérieurs de Lemisch, ont montré que, dans un contexte pareil, la piraterie doit être étudiée comme une sorte de résistance sociale. Le pirate qui, selon les paroles des personnes interrogées par Defoe, était en guerre contre le monde entier, était l'ennemi par excellence de sa propre civilisation. Et là encore, l'ennemi de mon ennemi pourrait bien être mon ami. Je déteste l'Europe, l'Europe est l'islam aussi, peut-être puis-je aimer l'islam. Donc là, bon, quand on parle des renégats, des gens qui trahissent l'Europe, et qu'on aura le bol de la société européenne, etc., etc., bon, il peut y avoir quelques échos avec la situation actuelle, ce qui prouve que bon, enfin bon, c'est toujours des choses assez complexes, mais l'idée, ici, je pense que c'est assez simple à comprendre, c'est que pour des gens qui sont maltraités sur des navires, la perspective de partir vivre à l'étranger n'est pas forcément effrayante. Tout simplement. Y compris, enfin bon, si le Dieu des chrétiens vous a peu aidé, peut-être qu'on peut attendre quelque chose du Dieu des musulmans, les savoir. Pour comprendre ces renégats, Wilson va étudier en particulier une communauté unique qui a existé pendant une courte période, dans la première moitié du XVIIe siècle, et qui est assez intéressante. Alors, je vous lis quelque chose. Donc, cette communauté, c'est celle de Rabat Salé. Rabat, c'est une ville qui existe toujours. Rabat Salé, donc pendant la première moitié du XVIIe siècle, de tous les États de Barbarie, Salé fut le seul où des corsaires acquirent leur indépendance. Alger, Tunis et Tripoli étaient toutes des protectorats de la Sublime Porte, en Turquie, hein, à Istanbul. Mais Salé, pendant plusieurs dizaines d'années, fut gouverné par un divan, entre guillemets, c'est-à-dire un conseil de capitaines et de corsaires. Ce fut une véritable utopie pirate. Et c'est donc là, dans la République de Bourg-Regreg, c'est la République de Salé, hein, la République corsaire de Salé, que nous pouvons donc espérer trouver le renegado dans sa forme la plus évoluée, son état de développement politique et spirituel le plus élaboré. Et donc ici, il s'occupe donc de cette ville parce que justement, dans cette ville, les pirates ont pris le pouvoir. On verra que il étudie d'abord un petit peu le contexte dans lequel ceci a pu se produire, mais à cet égard, Salé est vraiment un point unique à ce moment-là de l'histoire. Mais alors cela, si on veut comprendre Salé, ça va supposer donc d'étudier un petit peu le cadre historique de cette république et sa principale ressource économique, qui était la piraterie. Mais alors ça implique de voir l'histoire de la côte de Barbarie tout entière. Donc, vous aviez entendu tout à l'heure Cypher in the Snow, Pirate Song, et maintenant vous avez un autre morceau de musique, et on se retrouve après.
Et maintenant, vos majestés, voici un chapeau haut de forme de classe internationale.
Tirana dire ennemi à bâbord, il a digi du haut de son mât, et c'est la panique sur les deux ponts.
Les sabres se brandissent, il crie à mort,
des coups de talons sont tirés,
les soldats tombent des deux côtés, il a survie de l'écuyard.
Et là que commence mon lutin,
c'est la chance du gros barbare.
Mon nageur, mes piètres combattants,
il a réussi à rejoindre la côte
et à voler une partie du trésor.
Investissez, il n'y a pas de sûr, militez pendant que vous vous entretuez. Moi je suis le bon.
Je préfère être
voleur
que de me bagarrer
comme un pauvre
chiffonné.
La violence très peu pour moi.
Moi je me dis très judicie.
Le symbole de guerre, de lutte,
n'ont pas de sens pour moi.
N'ont pas de sens pour moi.
Mais regarde, là, regarde, tu vois pas? Tu vois pas? Le monde, il est malade, hein, il est malade. C'est le règne de la poudre dans l'œil du riche, le pauvre sur la paille. Mais la nuit, putain, la nuit. La nuit, tous les passes murailles sont gris. Alors, s'ils nous laissent que des miettes, les cons, eh ben...
Imbécile, il y a pas de style. Il y pendant que vous vous entretuez. Moi je file de mon côté. Imbécilité, y'a pas de simplicité.
Non pas de sens, pour moi je devrais me déguiser.
Imbécilité, y a pas de subtilité. Pendant que vous vous entretuez. Moi je file de mon côté. Imbécilité, y a pas de subtilité. Pendant que vous vous entretuez. Moi je file de mon côté.
J'ai toutes les autorisations nécessaires pour vous apporter joie et bonheur et vous voulez m'interdire l'entrée du royaume.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire 89.4, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité. Et c'est Jeudi Noir donc qui se poursuit pour la deuxième partie d'une émission consacrée aux utopies pirates de Peter Lambourn Wilson, édité par L'Éclat. Et donc c'est consacré aux corsaires morts et aux renegados d'Europe. Ça a été Peter Lambourn Wilson, je vous le rappelle, c'est Hakim Bey, celui qui a corsaire mort, José, qui faisait une blague sur mort et mort. Enfin bon. Et donc voilà, je vous expliquais un petit peu le contexte, le problème que se propose de traiter Hakim Bey ou Wilson, ce qui est de comprendre pourquoi tant d'Européens se sont convertis à l'islam et sont devenus pirates. Alors, José me rappelait pendant la pause que il faut savoir, c'est sans doute un élément de motivation très très important, que beaucoup d'Européens, quand il fallait choisir entre être marin ou être mis en prison, préféraient aller en prison. Tellement la condition de marin était épouvantable à cette époque. Donc, ils buvaient de l'eau croupie, ils mangeaient des trucs pourris, et ils se faisaient fouetter, et ils se faisaient... Enfin, c'était un vrai cauchemar. C'était le bagne, soi-disant salarié. Donc, voilà. Mais alors, si je reviens au contexte un peu général... Qu'est-ce qui s'est passé donc à ce moment-là à Salé? Il faut revoir, donc je vous disais, l'histoire de la côte de Barbarie tout entière, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans l'Afrique du Nord. Alors ici, ce qu'il faut savoir, ce que j'ignorais complètement avant de lire cet ouvrage, c'est qu'entre le XVIe et le début du XIXe siècle, la piraterie est la principale activité économique des côtes d'Afrique du Nord. Tout simplement. C'est ce qui leur permet de gagner leur vie. Et donc, il y a la mer est peuplée de corsaires. Et alors bon, la ville d'Alger a été particulièrement étudiée là-dessus parce que on a pas mal de documents, il y a pas mal de rapports avec l'Europe. Alors, et en plus, bon, ce qu'il faut voir, c'est que cette tradition pirate a été aussi exploitée au XIXe siècle par certains historiens européens pour dire regardez, c'était des barbares, ils avaient besoin de nous, on a bien fait de les coloniser. Donc, mais alors, ce gouvernement d'Alger, comment fonctionnait-il? Il a été décrit par les Européens comme quelque chose d'horriblement violent, anarchique au sens justement de désordre épouvantable. Alors là, je vous cite Wilson. En vérité, le gouvernement d'Alger semble n'avoir été ni anarchique ni anarchiste, mais plutôt d'une manière étrange et inattendue, démocratique. Au contraire des nations européennes qui succombaient progressivement à l'absolutisme des monarques, Alger montrait les signes d'une structure plus horizontale. En théorie, bien sûr, elle était toujours subordonnée à la politique impériale turque, mais, dans la pratique, la cité-État était dirigée par diverses chambres de janissaires et de notables corsaires qui édictaient leur propre politique et renvoyaient parfois prestement les représentants du sultan à Istanbul avec un refus brutal d'exécuter la volonté de la Sublime Porte. Alors, ici, comment est-ce que dirigeait Alger et pourquoi est-ce qu'il en parle? Alors, d'une part, il en parle parce que il semblerait que le gouvernement de Salé, de Rabat Salé, a peut-être été modelé sur celui d'Alger. Bien que Salé échappa toujours à la tutelle turque, à la tutelle d'Istanbul, et à son influence d'ailleurs en termes politiques, même si une influence culturelle a pu s'exercer. Donc Alger, comment c'était dirigé? Alors il y avait ce qu'on appelait l'Odjak, et l'Odjak c'était une émanation du pouvoir turc, c'était le corps dirigeant des janissaires. Alors, qui étaient les janissaires ? Pour l'expliquer, c'était des esclaves chrétiens convertis enfants à l'islam. Souvent, ils étaient donnés en paiement d'un impôt dû justement à la Sublime Porte par des Albanais, par tout un tas de gens, par tous les gens qui n'étaient pas musulmans. Et ils étaient formés à la guerre, mais aussi à l'administration. Et c'était des esclaves qui avaient souvent un grand pouvoir. Et je pense que le but du jeu, c'était justement d'avoir des troupes, de gens qu'on avait formés de A à Z, qui n'avaient souvent pas de famille, qui n'avaient pas de lien, en tout cas précis avec la population locale, et qui pouvaient servir de nervis à volonté pour le pouvoir. Bon, c'est un truc classique, hein, les soviétiques ont fait la même chose. Quand il fallait répurger une population, on prenait des gens qui venaient de 2000 km plus loin. Ça, on était tranquille. Bon, voilà, les Turcs ont fait la même chose. Enfin, les Ottomans ont fait la même chose avec les janissaires. Et donc, il y avait cet autre Jacques Algérois qui présentait une particularité tout à fait étonnante dans le contexte historique de l'époque. C'est qu'il fonctionnait selon une démocratie de l'aînesse. C'était des fonctionnaires, en fait. Toute recrue, n'importe laquelle, on pouvait accéder au sommet de la hiérarchie grâce à son seul temps de service. Quelqu'un qui partait du plus bas, un esclave albanais vendu à un turc à l'âge de 5 ans, qui avait commencé, je sais pas moi, par nettoyer du purin, pouvait terminer en haut de l'Odjak, quand il a pris sa retraite, dans ce qu'on appelait le divan, qui était la chambre gouvernante justement de cet Odjak, de ce corps dirigeant des janissaires. Et malgré les désordres en tout genre, les brutalités, les quasi-guerres civiles qui ont toujours éclaté là-dedans, ce qui est étonnant, c'est qu'Alger a survécu et a prospéré. Ce qui peut permettre de supposer que finalement, ces violences décrites par les Européens étaient moindres et n'étaient pas aussi graves, sans doute, que ce qu'ils décrivaient. C'est ce que dit Wilson, en tout cas, il pense qu'il n'y avait pas forcément beaucoup plus de violence et de corruption à ce moment-là à Alger que dans les monarchies européennes. Qui était vraiment pas forcément rose-rose. Alors, il remarque par contre une différence, que là aussi j'aurais parfois envie de contester, mais bon, cette différence c'est laquelle ? C'est que l'économie d'Alger dépendait de la violence en dehors des frontières. C'était l'action des corsaires. En gros, ils vivaient en pillant les autres. Bon. Je suis pas sûr que les monarchies européennes aient fait beaucoup mieux. Mais si, comme c'était des grands pays, c'était pas des villes, tout ça, bon, et puis ils avaient des ressources internes, c'est évident. Mais bon, peu importe. Et ces corsaires, comme c'était eux qui finalement maîtrisaient les flux économiques, qui pouvaient permettre à la ville d'Alger de prospérer, avaient un équivalent du divan. Le divan étant, je le rappelle, les dirigeants des janissaires. Et cet équivalent, c'était ce qu'ils appelaient le conseil des capitaines, ou le taïf, ou le tef, je ne sais pas comment ça se prononce. Et le conseil des capitaines, alors on n'en sait pas grand-chose, parce qu'il manquait de bureaucrates. Bon, voilà, ça c'est le défaut des anarchistes. Ils ont jamais d'archives, les cons. Alors, ce qu'on sait en revanche, parce qu'il y a des gens qui en ont parlé quand même, c'est que ce conseil était davantage qu'une simple guilde médiévale qu'on pouvait trouver dans les villes en Europe, des guildes de marchands, des guildes qui pouvaient avoir un certain pouvoir. Car c'était de facto en fait un organe dirigeant qui n'a cessé d'entrer en lutte avec le divan. Donc avec le conseil dirigeant des janissaires qui était l'instance politique représentative d'Istanbul, de l'Empire ottoman. Mais alors il rentrait en conflit avec le divan uniquement sur des points particuliers, car en réalité ils dépendaient l'un de l'autre. Les pirates avaient besoin des janissaires, les janissaires avaient besoin des pirates. Donc évidemment il y avait des dissensions régulières entre eux, mais ils ne pouvaient pas aller jusqu'au conflit complètement ouvert ou sans retour possible en arrière. Alors le conseil des capitaines, lui, était peut-être un peu moins démocratique que le Jack, où ça fonctionnait à l'ancienneté. C'était une hiérarchie fondée sur le mérite. Alors ici, le mérite, c'est un peu particulier, parce que, d'après Wilson, dans ces cas-là, les pirates parlent aussi beaucoup de chance, en fait. C'est-à-dire que quasiment tous disent quelqu'un qui a du mérite, c'est quelqu'un qui a du bol. Donc, à partir de là, malgré tout, si on compare ça à la marine anglaise ou française, c'est un système qui est extrêmement démocratique, parce que si vous êtes un pirate qui a réussi, c'est un bon marin, si vous avez eu de la chance, que vous avez réussi à piller des bateaux bien gras, bien riches, vous pouvez accéder aux instances dirigeantes, même en étant parti de rien. Une fois de plus. Et donc un mousse, vous pouvez devenir grand amiral. ça n'a aucun équivalent en Europe. Donc c'est pas génial, mais malgré tout, on est déjà dans quelque chose qui est plus démocratique, d'autant qu'il pouvait procéder par vote pour déterminer qui était le chef. Alors on sait, il semblerait que en tout cas Salé ait imité ce conseil. Et donc ça fonctionnait, comment dire, pareil, suivant le mérite. Alors bon, je vous ai pas raconté les réunions du divan, elles sont assez drôles. Le divan, donc c'était le truc de Lojack. Je vous lis quand même, parce que ça vaut le coup, je vous lis un témoignage de l'époque. Donc ça, c'est pas le conseil des pirates, c'est le conseil des janissaires. Les règles fixant les réunions du divan étaient assez simples. Nul membre n'avait le droit de porter une arme, quelle qu'elle fût, et des gardes armés faisaient régner l'ordre. Nul membre n'était autorisé à se servir de ses poings pour mener une action offensive sous peine de mort, mais il avait le droit d'exprimer ses sentiments avec ses pieds, soit pour frapper le sol, soit pour porter des coups. Un consul français fut presque tué à coups de pied lors d'une réunion du divan. Tous les discours se faisaient en turc. Des interprètes assuraient la traduction en berbère ou en arabe et dans les langues européennes lorsque nécessaire. On prenait la parole par ordre d'ancienneté ou d'importance, quoique la pratique semble avoir été que le président de séance orchestra le chœur des vociférations émises par l'Assemblée. Lors de ces séances régnait un désordre incroyable du fait de cette procédure. Les étrangers qui y assistaient croyaient souvent avoir affaire à des sauvages violents et irrationnels. Les documents dont on dispose semblent indiquer que les chefs utilisaient ce moyen pour imposer leur programme et faire taire les objections éventuelles. En revanche, pour un Anglais, cette façon de faire paraissait délirante. Francis Knight, par exemple, qui passa plusieurs années à Alger comme esclave au cours du deuxième quart du XVIIe siècle, réussit apparemment à assister à des réunions du divan. Son récit des débats vaut d'être rapporté. Ils sont debout en rang et prennent la parole par choix ou à leur tour, se bousculant les uns les autres avec les bras et les coudes, élevant la voix comme s'ils étaient en colère ou comme un chaudron bouillant d'un surcroît de feu. Ils ont la sage précaution d'éviter des plus grands malheurs, car il leur est ordonné de ne boire ni vin ni eau de vie avant de venir, ni de porter un poignard non plus. C'est un gouvernement comme il n'en existe nulle part au monde. Alors ici, bon, évidemment, on a une part, je pense, aussi des préjugés européens qui sont liés en particulier à la différence de langue. Hein. Comme disait le général de Gaulle, pendant la guerre d'Algérie, comment négocier avec des gens qui ne parlent pas mais qui crient, exprimant par là que la droite classique aussi est raciste. Mais bon, ça c'est vieux. Donc, voilà un petit peu pour Alger. Alors, ici... Bon, qui étaient les pirates d'Alger? Ben, c'était beaucoup de renégats. C'est-à-dire qu'une grande proportion des capitaines et des équipages d'Alger étaient en fait des étrangers. Des étrangers, c'est-à-dire c'était des Grecs, c'était des Égyptiens, des Syriens, des Albanais, des brigands balkano-ottomans, des Européens. Enfin, il y en avait, et les Européens, alors il y en avait tout un tas. Ils ont été mentionnés. Alors, un petit texte là encore. Entre 1621 et 1627, on raconte qu'il y avait 20 000 captifs chrétiens dans la capitale corsaire. Portugais, flamands, écossais, anglais, danois, irlandais, hongrois, slaves, espagnols, français, chinois, américains du sud, éthiopiens, qui attestent du caractère polyglotte des ethnies qui sillonnaient les mers à l'époque. Les registres tenus par les ordres rédemptionnistes sur l'apostasie sont tout aussi révélateurs, quoique douloureux pour l'ego apostolique. Entre 1609 et 1619, observa Gramet, les renégats qui abjurèrent volontairement leur foi au profit des douceurs de l'islam comptaient 857 Allemands, 138 Hambourgeois, 300 Anglais, 130 Hollandais et Flamands, 160 Danois et autres originaires de l'Est, 250 Polonais, Hongrois et Moscovites. Donc, bon, vous avez, alors, je sais pas d'où ils sortent ces chiffres, hein, mais peu importe, à la rigueur, ils sont juste indicatifs. Ici, du fait qu'il y avait un grand nombre d'Européens qui avaient joyeusement renoncé à leur religion pour servir le djihad à Alger. Donc, alors, il y a plusieurs figures comme ça qui vont se détacher de la... Dans les renégats algériens. Vous avez par exemple Kher al-Din, très très connu sous le nom de Barberousse, qui était albanais. Enfin, moi, c'est pareil, je l'ignorais complètement. En fait, pour moi, Barberousse, c'était plutôt un personnage de roman et de film qu'un personnage historique. Mais alors, j'aurais jamais imaginé sans doute à cause de mon ignorance de l'histoire des pirates, qu'il ait pu sévir dans la Méditerranée au service des musulmans tout en étant albanais. Bon, comme quoi l'histoire nous réserve des surprises. Il y a aussi un certain, alors ça c'est un personnage qui est assez grandiose. Comment dire ? C'est un type qui s'appelait Ali Bijnin, qui est en fait la déformation de Piccinino, un Italien, peut-être vénitien. Alors lui aussi, il a sévi, il a construit une mosquée, il est devenu immensément riche, là encore en partant d'absolument rien. Il arriva à Alger à bord d'un navire pirate qu'il avait amené de l'Adriatique. Il se convertit à l'islam et occupa rapidement une place importante au sein du Taïf, du conseil des capitaines, grâce à son audace et à sa bravoure. Ses captures en firent un homme riche et il réinvestit dans de nouveaux navires corsaires jusqu'à ce que la taille de sa flottille personnelle lui valut le titre d'amiral d'Alger. Voilà, donc il était très 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 riche, il en est bien sorti. Un autre exemple très très connu, semble-t-il, c'est celui de John Ward, qui était lui, qui n'était pas algérien, mais qui était tunisien, enfin non. John Ward, tunisien, oui, bien sûr, c'est très logique à l'époque. Il a vécu entre 1553 et 1623, et c'est un personnage haut en couleur, parce qu'il devient, corsaire, en fait, aux alentours de 1603. Il a déjà une bonne cinquantaine. Jusqu'ici, il était pauvre et il a été recruté de force sur un navire anglais, de la marine anglaise. Il se débrouille un moment pour se mutiner et prendre le pouvoir sur son bateau. Et à partir de là, il devient pirate et il va gagner le Tunis. Et là, et pareil, à partir de 50 ans, il va devenir très très riche, se convertir et il mourra sans doute de sa belle mort. Non, il meurt de la peste, c'est ça, il meurt de la peste. Belle mort. Non, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que tous les récits qui sont faits sur les renégats se terminent par, en gros, il connut une fin atroce. Parce que, évidemment, on ne peut pas imaginer que des traîtres connaissent une bonne fin. Donc, voilà, c'est John Ward, un autre type plutôt rigolo. Bon, je pense qu'on va faire une petite pause parce que après je vais passer à la République Mort de Salé et voilà. Donc là, je vous parlais d'Alger, de cet environnement assez étonnant. Voilà. Et puis après, on va passer directement à la République de Salé.
Oui, c'est moi qui lave tous les verres et les plats. On m'appelle une Marie, couche-toi là. Quand on me donne un penny, faut encore que je dise merci. Me v'là en habit loqueteux, au fond de cet hôtel 2. Vous ne savez pas aujourd'hui qui je suis. Vous ne savez pas aujourd'hui qui je suis. Mais un soir, un beau soir, grand branle-bas, les gens courent tous à la rive, disant, voyez qui arrive. Et moi, je sourirai pour la première fois. On dira, tiens, voilà que tu souris, toi. Un navire de haut bord, sans canon au sabot, entrera dans le port. Moi toujours, je laverai les verres et les plats, je serai toujours une Marie, couche-toi là. Quand on me donnera un penny, toujours je dirai merci, je garderai mes habits loqueteux au fond de cet hôtel miteux. Et demain comme aujourd'hui, vous ne saurez toujours pas qui je suis. Mais un soir, ce beau soir pour qui je vis, voilà que les 100 canons s'éveilleront et tonneront. Pour la première fois, j'éclaterai de rire. Quoi méchante, t'as le cœur à rire. Le navire de haut bord, son canon au sabot, bombardera le port. Alors viendront à terre les matelots plus de 100. Ils marqueront d'une croix de sang chaque maison, chaque porte. Et c'est devant moi qu'on apporte, enchaînés en pleurant, mutilés et saigneux, vos pareils, tous vos pareils, beaux messieurs. Vos pareils, tous vos pareils, beaux messieurs. Alors, pareils. arrêtera celui que j'attends. Il me dira, qui veux-tu de tous ces gens que je tue? Et moi, je répondrai doucement, tous. À chaque tête qui tombera, je dirai, hop là. Et le navire de haut, loin de la ville où tout sera monde, m'emportera vers la vie.
Bonsoir, vous écoutez Radio Libertaire, la radio sans Dieu, ni maître, ni publicité, sur 89.4. Et c'est Jeudi Noir qui poursuit donc pour son émission consacrée aux pirates à travers un livre de Peter Lamborn Wilson qui s'intitule Utopie pirate, corsaire mort et renegados d'Europe, publié donc chez L'Éclat. En poche. Et donc je vous rappelle un petit peu les choses, c'est que Wilson, qui se fait aussi appeler Hakim Bey, l'auteur de Taz, de zones d'autonomie, zones autonomes temporaires, s'intéresse au problème suivant, c'est comment expliquer que tant d'Européens se soient convertis à l'islam pour devenir pirates dans le bassin méditerranéen aux alentours du 16e, 18e siècle. Des 16e, 18e siècle. Et donc, il s'intéresse lui en particulier, pour essayer de répondre à cette question, qui est assez délicate, puisque les pirates n'écrivaient pas. C'était souvent des gens du peuple qui n'avaient même pas l'idée qu'ils puissent pouvoir écrire leur vie. C'était réservé à l'aristocratie ou à la bourgeoisie montante. Et donc, cette république mort de Salé... alors, deux, trois mots sur son histoire, parce que... Salé est une ville très très ancienne qui semble être occupée depuis par l'Homo sapiens depuis le paléolithique. Et en fait, quand il parle de Salé à ce moment-là, on parle de trois villes distinctes. Il y a Salé le Vieux, on appelle ça comme ça, qui est l'actuelle ville de Salé, ça existe encore. Il y a la Casbah et il y a Salé le Neuf qui correspond à l'actuelle ville de Rabat. Alors cette ville semble avoir résisté longtemps à l'islamisation, mais malgré tout, on pense qu'elle serait islamisée aux alentours du 9e siècle, de façon assez solide. C'est encore une ville frontière, plus ou moins, avec des garnisons, tout un tas de choses, mais bon, à ce moment-là, l'islam a pris pied à Salé. Dès le 11e siècle, elle commence à être habitée par des musulmans espagnols qui partent d'Espagne. J'imagine pour plein de raisons. Et à ce moment, c'est une ville assez prospère, car c'est le point de jonction des routes commerciales d'Europe et d'Afrique. Donc il y a énormément de commerce, il y a des grandes fortunes qui se créent, tout ça, ça marche très bien. Et donc, ça devient aussi à ce moment-là un centre culturel et religieux important, qui regroupe tout un tas de courants religieux populaires ou lettrés suivant soit des soufis, soit des marabouts. Donc bon, c'est assez riche, ça concentre beaucoup d'énergie. Et ça, tout ça marche à peu près jusqu'au XIIe siècle. À partir de ce moment-là, Wilson dit que la ville de Salé connaît une espèce de période de déclin tranquille. Voilà, bon. Ils deviennent un peu moins riches, ils sont un petit peu moins, un peu moins en pointe culturellement et religieusement, mais bon, ça dégénère pas, jusqu'à la misère et guerre civile et tout un tas de choses. Donc voilà pour une présentation un petit peu rapide de Salé. Alors je voulais vous lire une page là, j'avais noté ça, page 87. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi les débuts de la piraterie là-dedans? C'est que... globalement, peut-être que je vais un peu vite. Oui. Pourquoi est-ce que la piraterie va s'installer à Salé? C'est qu'au cours des 15e et 16e siècles, là je vous cite le livre, s'opérèrent des changements considérables dans le rapport de force entre les divers pays de la Méditerranée occidentale. La chute de la Grenade musulmane en 1492 marqua la fin de plus de 7 siècles d'expansion et d'implantation marocaine sur le territoire de la péninsule ibérique. En un quart de siècle, toutes les grandes villes maritimes de la côte atlantique marocaine étaient tombées aux mains des nouveaux empires d'Espagne et du Portugal. Toutes, sauf une. Salé. On n'est pas loin du petit village gaulois, que cela ne vous aura sans doute pas échappé, mais je ne me risquerai pas à faire des comparaisons aussi osées. Donc je n'ai pas fait cette comparaison, vous n'avez rien entendu. Et à partir de là, ce qui va se produire, c'est que il y a tout un tas de gens qui vont arriver à Salé. Des gens qui viennent d'Espagne, qui n'ont pas forcément. Vous avez des musulmans qui ne parlent qu'espagnol, qui sont très très européanisés finalement, et qui ne parlent pas un traître mot d'arabe, ils sont mal considérés, donc ils vont plus ou moins être rejetés, et mis dans un des. Alors c'est les Andalous, qui ont été expulsés de force. D'Espagne, et eux, on les autorise pas vraiment à s'installer, on les met, je sais plus, dans la Casbah, je crois, oui, ça va être ça. Ensuite, vous avez les Hornacheros qui arrivent, qui eux viennent d'Estrémadour, et qui sont très très soudés, toujours musulmans, mais qui parlent arabe et qui sont plutôt riches. Et alors, eux, ils vont pas du tout, ils vont s'installer le vieux. Donc, vous avez comme ça tout un tas de vagues d'immigration, de musulmans chassés d'Espagne. Et à ce même moment, le Maroc est complètement désorganisé. C'est-à-dire que, en gros, Istanbul et puis les chefs de guerre locaux n'ont pas les moyens de soumettre les villes qui se rebellent. Et il y a même un marabout, El Ayachi, assez célèbre, qui mène un djihad contre l'Espagne. Alors, comme il s'est fait beaucoup d'ennemis à Marrakech, il se retire à Salé, et là, les chefs des trois cités que je vous avais mentionnées, donc Salé le Vieux, la Casbah, Salé le Neuf, acceptent de le protéger. Et très très vite, à partir de là, comme celui qu'elles acceptent de protéger, qui est très célèbre, El Ayachi, le marabout, est pourchassé par le pouvoir, entre guillemets, central, il se trouve que les trois cités vont s'organiser en république indépendante. Donc ici, il y a une conjugaison de différents facteurs. D'un côté, les musulmans qui sont chassés d'Europe, de l'autre côté, une espèce de pouvoir central marocain qui est en déshérence et qui n'arrive pas à soumettre la ville. Mais alors, ça va être très très compliqué parce que c'est en fait les habitants de ces trois cités peuvent pas se saquer. Et ils n'arrêtent pas de se taper dessus. Donc ici, les trois mots qui pourraient, décrire Salé entre 1609, à partir de 1609, ou 1614, et en particulier entre 1627 et 1641, ce serait djihad, piraterie et lutte intestine. Lutte intestine qui sont extrêmement violentes, qui vont jusqu'à la guerre civile, il y a une des villes qui tire au canon sur l'autre ville, bref, ils font la paix, ils se calment, ils repartent en guerre, enfin bref, c'est un bordel pas possible. Ce qui est intéressant, parce que note Wilson, c'est que, globalement, bon, ça les empêche pas de continuer à faire de la piraterie, continuer à mener leur djihad. Oui, j'ai oublié des troisièmes communautés, parce que vous aviez les Andalous, vous aviez les Hornacheros, mais vous avez aussi, à la suite de la conquête de Marmora, ville côtière par les Espagnols, des pirates qui déboulent à Salé, où ils sont très très bien accueillis. Mais alors ces pirates, eux, c'est quasiment que des renégats. Donc vous avez, voilà, qui sont des chrétiens, désireux ou pas, de se convertir à l'islam de façon sincère ou pas, on ne sait pas grand-chose. Donc à partir de ça, ces trois communautés vont se taper dessus donc pendant de nombreuses années, environ 15 ans, ce qui n'entravera quand même jamais la bonne marche des affaires, comme je vous le disais. Alors, ensuite, ça va évoluer, parce qu'entre 1641 et 1651, les Andalous contrôlent Salé. Sous la protection d'un autre chef, d'un soufi, Mohamed El Hadj, qui a éliminé El Ayachi à la demande des Andalous. Mais alors, les Andalous, eux, vont conserver donc le pouvoir pendant 10 ans, la piraterie continue, c'est toujours une république, malgré tout. C'est-à-dire que le pouvoir central n'a pas repris la main sur Salé à ce moment-là. À partir de 1651, c'est le fils donc du Toufi qui devient gouverneur de Salé, et les Andalous conservent une grande influence encore sur la ville. Alors, je voudrais vous lire un passage. Donc la république du Bourg-Égrec, donc c'est la république de Salé, perdit peut-être une part de son autonomie sous le régime du sultanat nominal de l'ordre soufi, mais il trouva enfin un peu de paix et d'équilibre. À partir de 1641, ils arrêtent de se battre entre eux. Quoi qu'il en soit, les deux dernières décennies de la Triple République furent ses plus brillantes, du moins en termes de piraterie, parce que Salé a duré environ 50 ans. comme république. Enfin libérés de leurs luttes intestines, les trois cités-états purent diriger leur hostilité vers l'extérieur, dans la guerre sainte corsaire. En outre, si les républiques corsaires, sous leur forme la plus pure, c'est entre 1614 et 1640, en dehors de toute tutelle extérieure, étaient absolument uniques comme entité politique, on ne peut qu'utiliser le pléonasme plus unique encore pour désigner le partage de l'autorité entre corsaires et soufis, qui dura de 1640 à 1660. Il dépasse en effet l'imagination, et d'ailleurs, il était trop beau pour durer. Donc le joug des Dilaïtes, c'est les soufis là, et de leur chef à Salé, Sidi Abdullah, prince de Salé, semblait de plus en plus lourd aux Andalous et aux pirates. Ils commencèrent à chercher un moyen de revenir à leur état antérieur de totale indépendance, qu'ils avaient fini par parer du prestige d'une tradition ancienne et révérée. Donc évidemment, c'est toujours pareil, c'était mieux avant. Ils brillent comme ça de tout leur feu pendant une vingtaine d'années, et puis finalement ils essaient de virer le fils de Mohamed El Hadj, et ils vont se faire complètement avoir, parce que pour le virer, ils sont obligés de faire appel à une puissance extérieure qui finalement va les soumettre complètement, et donc c'est un classique ça, hein. Et la fin, donc c'est la fin des répliques de Salé, est datée d'à peu près 1668. Donc malgré tout, on a en termes politiques quelque chose de totalement unique à ce moment-là. C'est des gens qui arrivent à former trois répliques complètement indépendantes, alors qu'ils sont à portée de l'Espagne, à portée de l'Empire ottoman. Donc ça n'avait pas du tout été évident. Voilà pour la République de Salé, ce qu'elle a vécu, le temps qu'elle a vécu et comment elle a vécu. Alors après, Hakim Bey va s'intéresser à quelques renégats de Salé. Alors là, c'est très très compliqué aussi, parce que finalement on a très très peu de sources, c'est-à-dire qu'on en connaît presque aucun. Alors je vais vous citer ceux sur lesquels on a des écrits. Alors nous connaissons ainsi El Hadj Ali, donc qui était probablement un Maure, qui le 14 octobre 1624 captura au large du Cap Finistère un navire hollandais commandé par un certain capitaine, avec un nom imprononçable, un hollandais, à une période où Salé était censé être en paix avec la Hollande. Il avait donc cessé de harceler ses bateaux. Alors, je vous le cite pour une raison très très simple, c'est que Hadj Ali exigea que le capitaine se déclare français, et donc prise légitime, faute de quoi il le ferait jeter par-dessus bord. Bon, ça j'adore ce genre d'anecdote. T'es hollandais, donc j'ai pas le droit d'attaquer. Bon, bah dis que t'es français, c'est bon, allez hop, je t'attaque. Donc il y a aussi, par exemple, alors, là je voulais citer pour le pareil, parce que ça me fait rire. Donc le fameux Raïs Jafar, renégat anglais, mentionné en 1630, Hassan Ibrahim, probablement indigène celui-là, et Maïm Raïs, renégat hollandais. Il y a aussi Jaban Raïs, renégat portugais. Il y a Ahmed El Cortobi, renégat espagnol. Vous avez aussi Ali Campos, espagnol, Caz Marès, Angleterre, et Courtebay, le fils d'Ahmed El Cortobi. Donc, après une petite pause, je vais vous dire deux mots d'un des derniers forbans, Mourad Raïs, qui en fait était alias John Barber, alias Jan Jans, né en Hollande. Donc ça vous donne une idée du bazar. À tout à l'heure.
On nous classera anti tout pour des rimes trempées en titane. Pourtant on cherche l'antidote sans clou dans les bouteilles de butane. On affirme notre entité libérée du poids des soutanes. On restera entier et entier entre les caresses et la castagne. L'horreur se peint avec les armes de la nature. L'espoir se teint et se dessine sous les traces de la rature. Pensées morbides et fleurs fanées sous la rage de l'écriture. Une sorte d'addiction trop salée en faisant compte de nos blessures. Alors je dépense ce qui m'entoure, ces visages qui passent leur tour, ces vies rectilignes sans détour. Je tente d'y redonner des couleurs sous la griffe du stylographe. Et ça étape après étape comme sur la feuille du sérigraphe. Mon rap, c'est ce qui se passe en bas de chez moi. C'est des fous rires et des bastons, des militants et des icônes sans contrat. C'est aussi l'autodestruction du lumpen prolétariat. Aussi la rage de s'en sortir pour tous les gosses qui viennent d'en bas. Mon rap, c'est ma rue, son métissage. Mon rap, à perte de vue, reste un outrage. Il restera fait d'autonomie et d'espace incontrôlé. Ça, je le jurerai sur ma vie qu'ils pourront pas le récupérer. Notre rap, c'est ce qu'on est, ce qu'on vit et ce qu'on reçoit. Notre rap, c'est ce qu'on donne, ce qu'on ressent et perçoit. C'est en descendant à la ville et grimper au cimetière. Ça sent les moments hostiles et la rage de vivre notre univers. Notre rap, c'est ce qu'on est, ce qu'on vit et ce qu'on reçoit. Notre rap, c'est ce qu'on donne, ce qu'on ressent et perçoit. C'est en descendant à la ville et grimper au cimetière. Ça sent les moments hostiles et la rage de vivre notre univers.
Je viens de cet endroit qu'on appelle la cité noire. Ici on grandit entre la rage et le cafard. Est-ce un hasard?
Est-ce un hasard si l'on croise autant d'anards, si autant de gars vivent scotchés au comptoir, si autant de rap contre révolte et déboire, si on est temps à chercher la note d'espoir. Mon rap a hérité de cette culture ouvrière, de cette rage de créer pour combattre la galère. Le punk nous a aidés à cracher notre colère et savoir qu'on est collègues à chercher de la chaleur dans les concerts. Mon rap sous lumière blanche, mon rap froid comme nos hivers. Cette lame qui les veines tranche quand je rentre accompagné le soir. Rêve de mise en bière, rêve de blabla dark. Mon rap c'est aussi joie et émotion près de la rue du jeu de l'arc. Intense moment de vie et de passion.
Notre rap c'est ce qu'on est, ce qu'on vit et ce qu'on reçoit. Notre rap c'est ce qu'on donne, ce qu'on ressent et perçoit. Si on descend vers la ville et grimper au cimetière, ça sent les moments hostiles et la rage de vivre notre univers. Notre rap c'est ce qu'on est, ce qu'on vit et ce qu'on reçoit. Notre rap c'est ce qu'on donne, ce qu'on ressent. On perçoit si on descend vers la ville et grimper au cimetière. Ça sent les moments hostiles et la rage de vivre notre univers. On nous classera anti-tout pour des rimes trempées en titane. Pourtant on cherche l'antidote sans clou dans les bouteilles de butane. On affirme notre entité libérée du poids des soutanes. On restera entier et entier entre les caresses et la castagne. On nous classera anti-tout pour des rimes trempées en titane. Pourtant on cherche l'antidote sans clou dans les bouteilles de butane. On affirme notre entité libérée du poids des soutanes. On restera entier et entier entre les caresses et la castagne. Notre rap c'est ce qu'on est, ce qu'on vit et ce qu'on reçoit. Notre rap c'est ce qu'on donne, ce qu'on ressent et perçoit. Si on descend vers la ville et grimper au cimetière, ça sent les moments hostiles et la rage de vivre notre univers. Notre rap c'est ce qu'on est, ce qu'on vit et ce qu'on reçoit. Notre rap c'est ce qu'on donne, ce qu'on ressent et perçoit. Si on descend vers la ville et grimper au cimetière, ça sent les moments hostiles et la rage de vivre notre univers.
Bonsoir, vous écoutez Jeudi Noir sur Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération Anarchiste, sans Dieu ni maître ni publicité. Et donc nous poursuivons, je poursuis cette émission pour sa dernière partie, consacrée au livre de Peter Lambourne Wilson, Les Idées de Pirates, Corsaire Mort et Renegados d'Europe, à l'éclat, fulé chez l'éclat. Alors bon, j'aurai jamais le temps de vous raconter tout ce qu'il y a dans le bouquin, mais c'est pas plus mal, comme ça peut-être que si vous en avez envie, vous irez le lire. Je vous parlais donc de ce fameux Mourad Raïs, donc un Hollandais, parce que bon, à la limite ça pose des questions intéressantes. C'est-à-dire que je trouve que le bouquin de Wilson est sans doute parfois un peu complaisant à l'égard des pirates, parce que c'est clair que bon, il y a une dimension dans ce bouquin qui est intéressante. C'est une dimension de classe et de race. C'est-à-dire que les pirates sont clairement internationalistes. Ils s'en foutent plus ou moins. En tout cas, des témoignages qu'ils nous ont rapportés, on peut penser qu'ils s'en foutent. C'est clairement des pauvres. Mais alors il y a plusieurs problèmes qui vont se poser. C'est que c'est le statut des femmes qui, même si elles semblent plus libres que dans d'autres États européens à la même époque, sont néanmoins toujours soumises aux hommes. Et puis l'autre problème épineux qui recoupe d'ailleurs celui des femmes, c'est celui des esclaves. C'est-à-dire que la République de Salé, elle vit grâce en partie à la capture d'Européens qui sont réduits en esclavage. Alors ce que dit là-dessus Wilson, c'est que d'une part, les Européens aussi ont vécu grâce à l'esclavage, en particulier les Templiers de Malte. Ils capturaient des navires berbères et puis ils vendaient des esclaves à d'autres gens. Mais alors après, le sort des esclaves aussi est particulier, et c'est en particulier. Alors il parle, ça c'est à l'occasion du sac de Baltimore. Le Baltimore, c'est pas aux États-Unis, ici c'est en Irlande. C'était une petite ville qui avait été qui avait longtemps servi à la piraterie, parce qu'il y avait beaucoup de piraterie au large de l'Irlande. Ça aussi, je l'ignorais complètement. Et il semble que, à la suite de luttes de pouvoir, en gros, un catholique ait orienté les pirates de Salé sur Baltimore, qui était occupé à l'époque par les protestants anglais. Et donc, bon, il capture plein d'esclaves, et là-dessus, on a deux, trois, ça permet aux historiens d'avoir deux, trois infos sur, justement, les esclaves et leur sort. Et il dit qu'à Alger, souvent où les pirates étaient vendus, un esclave avait quatre valeurs potentielles, comme travailleur, comme compagnon, comme source de revenus et comme étape vers le paradis. Donc ici, travailleur, c'est bon, ça c'est assez évident. Oui, donc il dit, voilà, ouais, bon, c'est assez classique, hein. Les travailleurs, c'est ceux qui, c'est souvent les hommes qui étaient capables de faire une espèce de travail physique, les femmes qui pouvaient faire un travail domestique. Les compagnons, ça allait englober les esclaves chrétiens achetés pour servir donc de compagnons à leurs propriétaires. C'était les beaux jeunes gens qui pouvaient être employés comme pages, et les jeunes femmes capables de jouer le rôle de concubines. Ensuite, source de revenus, ça c'était à la rigueur peut-être, ça comprenait les captifs fortunés, qui pouvaient être vendus. Enfin, qui pouvaient être rançonnés plutôt, dont la famille pouvait être rançonnée, ou ceux qui étaient doués d'un talent particulier. Les artisans étaient particulièrement bien vus, et souvent ils arrivaient, eux, à très très bien s'en sortir. C'était des esclaves assez spéciaux. En gros, ils avaient de l'or dans les mains, ils pouvaient très très fréquemment se racheter. Et certains d'entre eux sont devenus richissimes à la suite de leur capture, en réalité. Donc, immigration choisie, dit José. Donc, il y avait ça. Et enfin, l'étape vers le paradis, c'était quand un acheteur musulman prenait son esclave pour en faire un janissaire. Donc, malgré tout, ça me semble compliqué d'idéaliser une république, même fondée par des pauvres internationaux, mais fondée sur l'esclavage. J'ai du mal. Alors, peut-être que c'est un anachronisme, ou peut-être que c'est un jugement moral hâtif, mais je pense qu'il faut le garder en mémoire. Surtout que dans le calendrier du corsaire, le dernier chapitre de cet ouvrage, enfin voilà la conclusion, de l'ouvrage donc de Wilson consacré aux pirates, Wilson commence par faire la différence entre le corsaire et le pirate. C'est une différence qui est relativement bien connue. Les corsaires étaient souvent employés par des états. Ils avaient des lettres qui les mandataient pour attaquer la marine des nations adverses, alors que le pirate est un indépendant. Alors, ce que dit Wilson, c'est que très souvent on a vu les pirates comme des espèces de proto-capitalistes qui ne visaient qu'à s'enrichir. Il remarque cependant qu'en réalité, un certain égalitarisme régnait parmi les pirates. Tandis qu'un capitaine corsaire pouvait amasser jusqu'à 40 fois le revenu d'un marin, chez les pirates c'était plutôt au maximum 10 fois. Donc il y avait une répartition du butin qui était plus égalitaire. Donc ça lui permet de dire que les pirates étaient plus comparables à des bandits qu'on pouvait trouver même dans les terres en Europe ou ailleurs, et qui étaient souvent protégés par la population et qui étaient des espèces de résistants sociaux, en gros. Donc ce que dit finalement Wilson, c'est que Saleh ne fut jamais aussi anarchiste ou communiste que ne le fut Libertalia, ou d'autres utopies pirates ayant réellement existé, mais bien plus que n'importe quel autre pays européen. Mais alors, ce qui est gênant malgré tout, c'est qu'il a l'air de dire que les pirates, c'est des gens qui résistaient au travail. Mais résister au travail en faisant des esclaves, moi, ça passe pas, ça me fait penser aux Spartiates, ça me fait penser à d'autres enfoirés du genre. Donc si on se libère du travail pour faire travailler les autres à notre place, je sais pas si on s'est libéré du travail. Donc je vais achever sur cette note un peu négative, mais ça reste un bon bouquin, enfin un bouquin assez plaisant à lire, donc de Peter Lambourne Wilson, Utopie Pirate, et voilà, si vous avez l'occasion, vous pouvez le lire, ou lire les bouquins de Rediker, Norbert Rediker là-dessus aussi. Voilà, je vous laisse, et puis on se retrouve dans deux semaines.
When I was just a little swabby, I liked two things, getting dirty and playing pirate. Pirates live lives of adventure on the high seas, get as dirty as they want, and they don't take baths. I said I was a pirate, 'cause pirates don't take baths.